pas si loin du périphérique, dans le quartier de la Rainerie, se cache un trésor de verdure. Passer un porche avec de lourdes grilles métalliques, nous pénétrons dans un jardin incroyable, caché au milieu des barres d'immeubles. Visite avec l'association La Gargouille des jardins de la Rainerie.
Donc La Gargouille, nous sommes une association toulousaine qui existe depuis maintenant plus de 10 ans. Donc des kilomètres parcourus puisqu'on organise des randonnées urbaines pour faire découvrir l'histoire et le patrimoine et la mémoire d'ailleurs des quartiers toulousains. Donc on est très attaché au quartier du Mirail, Bellefontaine, Rainerie, Mirail Université, mais aussi Ampalo ou même les quartiers nord, Croix Dorade, Trois Cocus, voilà.
Plutôt des quartiers en périphérie qui sont assez méconnus.
Qui sont connus, mais en tout cas pas pour leur histoire et leur patrimoine. Donc justement, c'est là qu'on vient remettre les choses, comment dire, à plat pour montrer que c'est aussi des lieux qui ont une histoire, qui fait partie de l'histoire de la ville de Toulouse.
Donc le 24 septembre, vous organisez une balade. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Alors c'est dans le cadre de la semaine de l'écologie populaire qui est organisée par le TO7, qui est une association très active sur le quartier du Mirail. Et donc, s'il y a des journées par thématique, et la dernière journée, c'est sur la ville et la nature. Et donc, on a choisi de faire un parcours compté dans ce parc de Rainerie qui est assez méconnu et qui abrite une collection botanique assez exceptionnelle. Donc, ce sont des conteurs qui vont apporter des histoires et des contes qui viennent un peu des quatre coins du monde en fonction des essences d'arbres qui se trouvent ici.
TO7, en fait, c'est la maison des chômeurs qui sont implantés à Rainerie. Et ils sont pas évidents à trouver, mais si vous trouvez, vous allez passer d'excellents moments, surtout le jeudi après-midi, ils organisent des repas-débats. Vous pouvez trouver sur Internet leur site. Donc, pour connaître les actualités de La Gargouille, très simple, vous allez sur le site Internet, qui est www.la-gargouille.org, ou en nous appelant directement au 05 34 60 12 75. Donc suivez-moi, on va aller au parc de Rainerie. Comme vous voyez, c'est un lieu qui est vraiment tranquille, il y a peu de monde. C'est un jardin qui est très peu connu sur Toulouse. Et en fait, il est vraiment tout près, mais il est un peu caché aussi parce que du métro, on ne le voit pas forcément. Alors, ça vous plonge dans quelle période à peu près? Vous avez une idée? Voilà, on est en plein 18e en fait. Donc, c'est un des rares endroits sur Toulouse où en fait on retrouve l'architecture et le paysagisme de Paris à l'époque, parce que il est lié à l'histoire de la capitale, puisque l'histoire du château est liée à une intrigue de la cour du roi Louis XV. Le roi Louis XV, il est peu intéressé par la politique, en réalité. Il s'intéresse plutôt aux femmes qui l'entourent. Et en fait, en 1764, il perd son amante favorite, la marquise de Pompadour. Et à ce moment-là, il va chercher une nouvelle femme pour l'accompagner. Et dans le même temps, en parallèle, donc ils se connaissent pas encore, il y a une jeune femme très séduisante qui s'appelle Jeanne Bécu. Et qui, elle, est une femme du peuple, mais qui a les manières distinguées de l'aristocratie, puisqu'elle a été élevée parmi les sœurs. Et donc cette jeune femme, elle va commencer à fréquenter les salons parisiens, et elle va rencontrer un homme, qui à l'époque, c'est un métier reconnu, qui est trafiquant d'armes et de femmes. Une heureuse rencontre. Et c'est un homme, lui, qui travaille aussi pour la cour du roi. Donc elle va séduire cet homme-là, et en fait, donc il s'appelle Jean du Barry. Jean du Barry, lui, il recherche une femme pour le roi. Donc, il va la présenter au roi. Le roi va tomber sous le charme. Sauf que elle fait partie du peuple. Donc, à la cour, il peut pas y avoir une femme du peuple qui rentre à la cour. Donc, l'astuce que va trouver Jean du Barry, c'est de la marier à son frère, Guillaume du Barry, qui est célibataire et qui habite sur Toulouse. Donc, le mariage est célébré. Jeanne change de nom et devient la comtesse du Barry. Elle va ensuite monter à la cour du roi pour être l'amante favorite du roi Louis XV. Et donc en fait, Guillaume et sa femme, Jeanne, Ils ont passé juste le jour du mariage ensemble et ensuite sa femme a été remise à Louis XV. Et en remerciement, c'est quand même un beau cadeau. Donc Louis XV offre à la famille du Barry une belle rente des domaines, dont le domaine, en fait, le domaine de Roquelaure, qui est un peu excentré de Toulouse, mais que Guillaume va échanger pour se rapprocher de Toulouse avec ce domaine ici de Rennerie. Donc arrivé ici, Guillaume du Barry décide de construire une petite folie, comme on appelle à l'époque. Donc un petit château, certes peu spacieux, mais très décoré, très finement décoré. Et il aurait fait appel à des architectes parisiens et un paysagiste parisien pour dessiner ce château et le parc. Donc Guillaume, à savoir, c'était un grand féru de botanique. Et en fait, lui, ce qu'il voulait dans son jardin, c'était vraiment de constituer une collection d'arbres. Donc c'est ce qu'on voulait vous montrer par ces contes. Vous allez voir, c'est des contes qui viennent des quatre coins du monde. Et en fait, c'était vraiment l'époque aussi du 18e où on commençait à voyager, à rapporter, à s'intéresser à la nature, à classer les espèces. Et donc, par exemple, à Toulouse, il y a eu, à cette époque-là, en 1790, la création du Jardin des Plantes. Et c'est au même moment que Guillaume crée dans ce jardin, lui, sa propre collection, en fait. Donc vous allez voir ici, il y a vraiment des espèces rares, des espèces qui viennent des quatre coins du monde. Et les conteurs vont mettre ça en scène pour nous replonger dans les pays d'origine de ces arbres. L'autre fonction de ce jardin, c'est un jardin romantique. On voit que c'est pas qu'un jardin pour classer les espèces, c'est aussi un jardin romantique avec tous les jeux d'eau qu'on retrouve dans le jardin, les rigoles, le bassin. Et notamment ce qu'on voit juste derrière nous, la contre-allée de Charmille. Donc c'est vraiment toute une contre-allée qui fait tout le tour du bassin où les gens, comme des coulisses, pouvaient se cacher pour se dire des mots doux. On va aller voir en coulisses ce qui se passe puisque le premier artiste nous attend dans les coulisses du bassin.
Ça va tout le monde? Bonne soirée. Hein. Si vous entendez O, oh, vous dites O oh avec moi. Si vous entendez E, vous dites E. Eh. Après moi. Wa Toulouse O. Idonga E. Wa Bangui O. Idonga E. Wa Toulouse O. Idonga E. Wa Bangui O. Idonga E. Garonne o, oh, idonga e, Reneri o, idonga e, Le Mirai o, idonga e, Lagardie o, idonga e.
Je m'appelle Pierre Diouf Magalet. On m'appelle à Toulouse depuis un certain temps Pili Pili Magalet parce que j'ai fait de la radio tout à fait à l'époque des radios libres. Et je suis musicien aussi. J'ai joué dans des groupes toulousains, afro-antillais comme Stardust, comme Africa Melodia, le groupe Barocco aussi, le groupe Pili Pili. Et puis j'ai participé aussi à des featuring, comme on dit. J'ai été invité par exemple par Sandoval pour faire son disque en live. J'ai joué de la Sansa, Serge Lopez, des artistes de Toulouse. Et là, je travaille depuis un certain temps avec Thierry Mbier, un clavier de Toulouse. On prépare un album qui doit sortir en décembre. Et là, il y a un single trois titres, qui est déjà sorti.
Bonjour, je suis Michèle Boivin, je suis québécoise. En fait, montréalaise de cœur, bien que j'ai vécu un peu partout au Québec, en Abitibi-Témiscamingue, dans les forêts ou dans les grandes villes.
Il y a deux arbres dans le parc qui sont des arbres québécois, le noyer d'Amérique et l'oranger des Osages, une tribu amérindienne. Donc, je compterai sous ces deux arbres. Déjà pour le noyer, les scientifiques disent par exemple que les ours grattent au pied des noyers pour ramasser des noix pour l'hiver. Mais une légende amérindienne raconte qu'il y a peut-être une autre raison pour laquelle les ours grattent au pied des noyers. Et c'est l'histoire que je raconterai au pied de ce noyer d'Amérique. Pour l'oranger des Osages, il y a aussi un magnifique conte ojibwé qui raconte l'histoire d'un Indien Sioux qui, grâce à l'oranger des Osages, aurait réussi à conquérir la princesse, ou en fait l'Indienne, sa princesse qu'il convoitait. Et voilà. Et on saura comment l'oranger des Osages a permis à ces deux amoureux de se retrouver. Tant de choses nous lient, Québécois et Français, il y a ces deux arbres qui nous permettent de créer des ponts et de voyager un peu.
Quand on prête bien l'oreille, on entend le pic, le pivert qui tambourine. Il prépare une flûte. Et si je vous dis ça, c'est qu'il y a très, très, très longtemps, en ce temps-là, les Osages, une autre tribu amérindienne. Les Osages, c'était des farouches guerriers. Des farouches guerriers, mais surtout des experts dans la fabrication d'arcs. D'ailleurs, vous le connaissez, ils utilisaient un bois qui appelait d'un nom très original, le bois d'arc. Et ce bois d'arc, c'est le bois de cet arbre qui est devant vous, le bois de l'oranger des Osages. Et en ce temps-là, il y avait un jeune chasseur qui avait fabriqué son arc, justement. Pas un arc ordinaire, un arc très très long, un arc plus haut que toi, un arc de 1,80 m de haut, pour partir à la chasse à l'élan. Et pourquoi il voulait partir à la chasse à l'élan? Eh bien, parce que le jeune chasseur, il était amoureux. Il était amoureux fou d'une squaw qui voyait tous les jours alors qu'elle cueillait, comme toutes les squaws de la tribu. Mais le seul moyen pour lui, le seul moyen juste pour ce jeune chasseur de trouver le pouvoir, la force, le courage de partir séduire la belle squaw, c'était un rite de passage. Il fallait partir à la recherche de la médecine de l'élan. Il fallait partir à la chasse. Alors, il avait gossé son arc. Il avait fabriqué son arc. Et puis, ce matin-là, prêt à partir, il avait ramassé un fruit. Le fruit de l'oranger des Osages. Et puis, il en avait extrait le latex, le lait contenu à l'intérieur du fruit, puis il s'était maquillé. le jeune chasseur, savait qu'au contact de l'air, le lait blanc allait devenir jaune et que là, il serait vraiment repéré comme un véritable guerrier. Et en plus, ce maquillage allait le protéger des mouches. Même amoureux, dans la forêt, les mouches, c'est déplaisant. Il était tout fin prêt, son arc, son maquillage de guerrier. Il a pris son canot, il a descendu tout le long de la rivière Mississippi et puis est arrivé dans la forêt. Il a marché très, très longtemps dans la forêt, très longtemps, sur les pistes de l'élan. Et quand il a vu l'élan, il a bandé son arc. Au moment de tirer la flèche, l'élan s'éloignait. Il a continué de suivre les pistes de l'élan. Et quand il s'approchait de l'élan, il bandait son arc et au moment de lancer la flèche, l'élan s'éloignait. Il a marché dans la forêt toute la journée. Et chaque fois, l'élan s'éloignait. Comme si l'élan avait voulu le guider vers un secret. Le crépuscule est venu. La nuit est tombée. Et le jeune chasseur a dormi dans la forêt, tout seul. Il s'est enroulé dans une couverture en peau de castor et il a écouté les bruits de la nuit. Il les connaissait, le cri du huard, le cri du hibou, le vent surtout, et les nuits. Il a écouté. Et pourtant, il rêvait pas, il dormait pas encore. Il entendait un son. Oh non, pas un son, un chant. Comme une plainte douce, langoureuse. Un truc lancinant, une plainte qui l'a tout doucement fait glisser dans le sommeil. Et cette nuit-là, il a fait plein de rêves. Entre autres rêves, où il y avait un pic à crête rouge. Un pic à crête rouge qui chantait ce chant si mélodieux qu'il l'invitait à le suivre. Au petit matin, quand il s'est réveillé, il a vu, là, tout au sommet de l'arbre, le pic à crête rouge, le pic de ses rêves. Et le pic s'est mis à volter d'un arbre à l'autre en guidant le jeune chasseur jusqu'à un tuya. Le cèdre, vous le connaissez? Celui qui a ses grandes branches et qui les referme comme ça pour tenir des familles d'oiseaux bien au chaud pendant tout l'hiver. Eh bien, le pic, il était perché sur une branche dure et sèche de ce tuyau. Et il s'est mis à tambouriner et à percer la branche de petits trous. La nuit tombait, et comme la nuit dernière, ben, le vent s'est levé. Et encore une fois, s'est élevé dans l'air ce même chant mystérieux, ce même chant mystérieux, langoureux, merveilleux. Et le jeune chasseur, fasciné par ce chant tellement beau, il a arraché la branche de l'arbre. Et au moment où il a eu la branche de l'arbre là dans ses mains, sculptée par le pic. Étrangement, la branche était muette. Et bien dans ce temps-là, quand on comprenait pas les secrets de la nature, on n'allait pas chercher sur Internet. Non. Dans ce temps-là, les jeunes Amérindiens, quand ils comprenaient pas, ils faisaient un jeûne. Un jeûne pour rêver. Un jeûne, croyez-le ou non, ça durait 4 jours et 4 nuits. Alors notre jeune chasseur s'est mis en jeûne. Tout seul. Dans la montagne. 4 jours et 4 nuits sans manger. Et la 4e nuit est apparu le pic à crête rouge. Et cette fois-là, le pic à crête rouge a tout enseigné aux jeunes chasseurs. Comment sculpter à partir de la branche de cèdre bien dure et bien sèche une flûte. Une siotanka, une flûte de fiançailles. Il lui a tout enseigné la finesse de la siotanka. Comment la sculpter avec un long bec de pic vert. Et surtout, comment en jouer. Et bien la nuit venue, le jeune chasseur a décidé d'aller dans les fourrés parlant, proche du tipi où dormait la belle squaw. Et il a décidé de jouer pour la première fois de la flûte de fiançailles. Et le chant s'est élevé dans l'air, ce chant merveilleux, ce chant mystérieux s'est rendu jusqu'aux oreilles de la princesse, de la squaw, de celle qui convoitait. Elle a ouvert les yeux. Elle a entendu, et comme un fil invisible, elle a suivi le chant de la siotanka. Et pas à pas, elle s'est rendue jusque dans les bras du jeune chasseur. L'histoire dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans les fourrés près du tipi. Sous l'oranger des osages, mais ça a duré toute la nuit, toute la vie aussi. Eh bien, depuis ce temps-là, les Indiens de la tribu des osages, ces Amérindiens, ils continuent toujours de fabriquer des arcs avec du bois d'arc, ce bois de l'oranger des osages. Mais quand ils gossent, toujours ils prêtent l'oreille. Des fois qu'un pic sculpterait une flûte de fiançailles.
Je suis à nouveau, je vous emmène dans un autre arbre.
Je m'attendais pas à ça, hein. C'est marrant. Céline n'avait pas dit ça.
Ah bon, qu'est-ce que vous avez dit?
Rien, elle m'a dit, je raconte un conte. J'ai dit, bon, ben, je vais le voir. Non.
Je suis Céline Verdier, je suis conteuse à Toulouse et ailleurs. Alors, je vais raconter deux contes. Le premier, c'est un conte japonais, qui est l'histoire d'un rêve qui va se réaliser. Et le deuxième conte, c'est un conte vietnamien qui est l'histoire, une histoire d'amour impossible entre une princesse et un pêcheur. Alors j'ai choisi, c'est pas fait exprès, mais j'ai choisi un Sophora japonica. En fait, je l'ai choisi au départ parce que je l'ai vu. Il fait comme un peu comme une ombrelle. Quand on est en dessous, on se sent très bien. Et j'ai appris par la suite que c'était un Sophora japonica, ce qui résonne avec mes contes asiatiques. La princesse Minyoung est assise devant sa fenêtre. Elle sirote une tasse de thé. Chaque matin, la servante entre avec un plateau à la main. Sur le plateau, une théière, une tasse. Elle dépose le plateau près de la princesse sur un petit tabouret. Elle verse le liquide fumant dans la tasse, se retire. Chaque soir, elle vient reprendre son plateau. La théière est vide. Ce matin-là, la princesse admire les lueurs de l'aube qui ravivent les couleurs du royaume de son père. Là-bas, au loin, elle voit apparaître la verdure de la jungle sur la montagne. Et là, l'éclat ruisselant de rivières claires qui coulent là au pied du palais et qui s'échappent plus loin, vers l'ouest. Soudain, elle entend une voix. C'est une voix d'homme. Une voix chaude, puissante, généreuse. La voix entre dans son oreille, parcourt sa colonne vertébrale. Elle n'a rien vu. Le lendemain matin, à peine la servante est sortie de la chambre, elle se poste à la fenêtre et elle scrute Rivière Claire. Elle sait que la voix venait de là. La voix revient et à nouveau, elle tapisse son intérieur d'un velours doré. Là, sur la rivière, elle voit une pirogue. Sur la pirogue, la longue silhouette d'un homme au grand chapeau. Elle ne peut pas voir son visage, mais elle voit la pirogue disparaître à l'horizon vers l'ouest. Le lendemain encore, elle attend près de la fenêtre en sirotant sa tasse de thé. Elle scrute la rivière. Mais ce jour-là, la voix ne vient pas. Le soir, quand la servante vient reprendre son plateau, la théière est pleine. La princesse est là, accoudée à la fenêtre. La fenêtre est ouverte. La princesse a des larmes sous les yeux. Elle soupire. Et ainsi, plusieurs soirs de suite, elle découvre la princesse dans un état encore pire que celui de la veille. La princesse est en train de devenir de plus en plus livide. Des cernes se creusent sous ses yeux et le teint se grise. Elle soupire de plus en plus. La servante va voir le roi. « Sire, votre fille est malade depuis plusieurs jours. Elle a entendu, m'a-t-elle dit, la voix d'un homme. Elle dit que cet homme a une voix d'or. Elle veut l'épouser, sire. Faites rechercher cet homme, sinon votre fille se transformera en soupir. » Le jour même, des héros parcourent le royaume. On cherche un homme à la voix d'or! On cherche un homme à la voix d'or! On cherche un homme à la voix d'or.
Une longue queue se fait devant le palais. Alors il y a des hommes de toutes sortes. Il y a des nobles, des mandarins, des lettrés, des commerçants, des artisans. Tous les hommes célibataires et non célibataires sont tous là réunis. Il y a des saltimbanques, il y a des artisans, il y a des mendiants, il y a tous les hommes qui sont là. Et pendant 40 jours, le roi et sa fille Minyoung voient défiler devant leurs genoux des hommes qui chantent. Mais aucun n'a la voix tant attendue. Au soir du 40e jour, les lourdes portes du palais commencent à se refermer. C'est l'heure du crépuscule. Quand soudain, dans l'embrasure de la porte, apparaît la longue silhouette d'un homme au grand chapeau. C'est lui, elle en est certaine. Il s'approche, il s'agenouille, il enlève son chapeau, elle ferme les yeux. Il est là tout près, elle sent son souffle sur ses genoux. Il ouvre la bouche et se met à chanter. Toute la salle, en émoi, reste suspendue à la voix de cet homme. Chacun et chacune dans cette salle frémit, sent des étincelles crépiter dans leur cœur. Le palais tremble d'émotion. La princesse elle-même est secouée dans tout son intérieur. Elle sent une lueur qui fait éclater son cœur. Elle voudrait voir son visage. Elle se dit, cet homme qui a une voix pareille, il doit avoir un regard, des mains. Elle n'y tient plus. Elle ouvre les yeux. Et devant elle, elle découvre Truong-Chi. C'est un pêcheur. Il a le teint basané. Un œil qui regarde en haut, un autre qui regarde en bas. Des mains de travailleurs. Alors, comme elle l'a fait depuis 40 jours, elle l'exclut. Elle monte dans sa chambre et s'enferme. Truong-Chi, lui, il a vu le visage de la princesse. Elle est encore plus belle que dans tous les récits de tous les poètes et de tous les musiciens du royaume. À partir du moment où il l'a vue, ce visage reste collé devant ses yeux. Il le suit partout, il l'attire, il le voit partout sur le sol, sur les murs, sur les troncs des arbres, sur les feuilles, dans le ciel, sur les nuages, devant lui. Il le suit, le visage de la princesse, le visage l'amène au bord de la rivière, se dépose là, à la surface de l'eau. Truong-Chi entre dans l'eau. Il disparaît. Quelques jours plus tard, une femme vient laver son linge au bord de la rivière, comme toutes les semaines. Mais ce jour-là, elle voit quelque chose qu'elle n'avait encore jamais vu à cet endroit. De la terre d'argile rouge. Elle sait bien, elle, que la terre d'argile rouge a des propriétés magiques. Elle tend ses mains vers la terre, et aussitôt, ses mains se mettent au travail. Elles saisissent la terre, pétrissent, lisses, creusent. La femme regarde ses mains travailler, sans elle. Elle regarde l'œuvre se faire dans sa main, et elle voit se former une tasse. Une simple tasse. Mais si simple, justement. Le simple fait de la voir dans sa main, elle sent comme un frisson parcourir son bras, descendre le long de sa colonne vertébrale, elle va porter la tasse au palais du roi. « Sire, j'ai fait cet objet, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Ce sont mes mains, inspirées par je ne sais quelle force. Cet objet est digne d'un roi. Il n'est pas fait pour une pauvre femme comme moi. Prenez-le, sire. » Le roi prend son cadeau. Il regarde, admire l'ouvrage. Il pose la tasse dans sa main et sent comme un petit courant électrique parcourir son bras. Il remercie la femme en lui offrant quelques pièces d'or. Il fait appeler la servante. « Va porter ceci à ma fille. Je pense que ce cadeau pourra lui rendre ne serait-ce que pour une seconde son joli sourire. » Le lendemain matin, la servante entre dans la chambre avec, sur la main, un plateau. Sur le plateau, une théière et la tasse.
Elle dépose le plateau sur un petit tabouret près de la princesse. Elle verse le liquide fumant, dépose la théière, se retire. La princesse, sans même regarder, prend la tasse. Elle la porte à ses lèvres. À cet instant, la vapeur qui monte de la tasse envahit son visage et la recouvre entièrement. Il pénètre ses oreilles, descend le long de sa colonne vertébrale. Elle regarde au fond de la tasse et quand elle voit ce qu'elle voit, deux grosses larmes sortent de ses yeux. Ces larmes se transforment en ruisseaux, en rivières, en fleuves. La princesse coule dans la tasse. La princesse coule dans la tasse. Le soir, quand la servante vient reprendre son plateau, la princesse a disparu. Elle voit la tasse posée là sur le rebord de la fenêtre. Elle s'approche, la prend dans sa main. Une étincelle jaillit dans son cœur. Elle regarde au fond et elle voit une rivière. Sur la rivière, une pirogue et la longue silhouette d'un homme au grand chapeau. Et juste à côté, la princesse mignon qui sourit. Merci.
Bonjour, je suis Yasmine, je suis auteure-lectrice publique et je vais venir faire une boucala maghrébine. Donc la boucala, c'est un rite de poésie traditionnel qui a été créé par les femmes d'Alger pour éclairer leur vie. Et moi, je me suis inspirée de ce rite pour faire une version plus contemporaine. J'ai choisi le chêne liège, qu'on trouve aussi sur tout le pourtour méditerranéen. Donc ça sera le lien entre le Maghreb et puis la France aussi.
Il n'y a qu'un mot à dire. Aïeo, ça veut dire ça vient du cœur. On le dit ensemble, on répond à la musique. Aïeo, tout le monde, sans exception. Tout le monde peut chanter. Aïeo. Aye, 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 aye
Bonsoir, s'il y a d'autres gens qui sont arrivés pendant la musique. Moi, je voulais vous présenter cet arbre qui est derrière moi, que je trouve magnifique. Cet arbre, c'est un chêne liège. Vous voyez, comme l'écorce est très épaisse. Et cet arbre est originaire du Maghreb. Al-Maghreb, en arabe, ça signifie l'endroit où le soleil se couche. Et dans cette région du monde où le soleil se couche, en Algérie, les femmes se réunissent entre elles et ça donne un jeu qui s'appelle la boukala. C'est ce que je vais vous proposer ce soir. Je vais vous lire un texte très court qui explique un petit peu ce qu'est la boukala traditionnelle et ensuite je vais vous proposer ma version. La boukala, le poème comme avenir de la femme. À Alger, les femmes se réunissent souvent pour jouer à la boukala, un rite de divination et de poésie. Les séances se tiennent la nuit et ne concernent que les femmes. Après le thé ou le café, la maîtresse de maison ramène un bocal, boukala, rempli de l'eau de 7 sources ou de 7 fontaines. Chaque femme y dépose un bijou, une bague, une broche ou une boucle d'oreille. La doyenne prend le bocal pour le tourner 7 fois au-dessus d'un brasero où brûle de l'encens en récitant des formules incantatoires. Elle demande alors à chaque femme de penser à une personne chère, ou à une situation qui la préoccupe. Après s'être concentrée, elle récite une boukala, un poème court de 4 ou 5 vers. Le poème peut lui venir de la mémoire séculaire des ancêtres ou juste de l'improvisation du moment. Puis, les femmes demandent à une vierge de prendre au hasard un bijou du bocal. La propriétaire du bijou sorti de l'eau doit, avec le groupe, trouver dans le poème récité ce qui peut éclairer sa vie, ses amours, lui annoncer des départs, des joies ou des malheurs. Le poème est là pour lui dire son avenir. Et comme ce poème est souvent vague et imagé, tous les futurs pour la femme sont possibles. Encore vivace, la boukala présente 1000 variations. Cette poésie anonyme et orale est essentiellement citadine et féminine. Son langage emprunte aussi bien au français, à l'espagnol qu'à l'italien. On y trouve même des rythmes inspirés de la poésie andalouse. C'est dire à quel point la boukala plonge loin ses racines dans l'histoire de la Méditerranée. Donc voilà la boukala traditionnelle. Comme vous pouvez le constater, enfin, la boukala que j'ai créée est ouverte aux hommes, parce que normalement ça ne concerne que les femmes. Et dans mon plat en terre, dans ma boukala, en plus des poésies que j'ai choisies, j'ai ajouté des contes et des proverbes. Et alors, dans cette version, ce que je vous propose, c'est que je vais faire le premier tirage. Je vais tirer un nom et un texte. Je vais dire ce texte et l'offrir à la personne dont j'ai tiré le nom. Ensuite, la personne dont j'aurai tiré le nom va venir à ma place, va prendre un nom, un texte, dire le texte, et l'offrir à la personne dont elle vient de tirer le nom. Même si vous n'êtes pas venu avec une question, vous êtes forcément avec un état d'âme, une émotion, etc. Soit vous êtes avec cet état quand vous allez tirer, puis vous voyez comment le texte entre en résonance avec cet état, ou alors vous vous posez une question, voilà. Puis vous verrez comment ça répond. On commence ? Joël. Donc Joël, je tire un texte pour vous. C'est une poésie. Ne pleure pas, ma mère. Le désert n'est qu'un instant. Demain, sur les dunes glacées, refleuriront les coquelicots réchauffés par les rires du vent, qui fera chanter les montagnes et les plaines en un autre instant. Ne pleure pas, ma mère. Le temps n'est qu'un instant. La rosée du matin se vengera de l'oubli, et le crépuscule se rosira à nouveau pour annoncer la naissance du printemps. Khaled Benesser, Algérie.
Anaïs. Alors, c'est une poésie aussi. Cette lettre qu'au jour je n'écrirai pas, je veux qu'elle commence l'alphabet de nos espoirs et de nos chants. Cette lettre qu'au jour je n'écrirai pas, Je veux qu'à l'ombre, elle soit une ivresse de lumière, qu'au silence, elle redise les encens de la joie, qu'à l'averse, elle soit l'aquarelle de nos rires, qu'à l'écume du soleil, elle unisse les dires de nos promesses. Farid Mameri, Algérie.
Maria, une poésie aussi. Je suis printemps au cœur du printemps, et je fleuris sur les branches de mon âme, en milliers de joies, en vagues de sourires. Je frémis d'amour et la joie tombe à mes pieds en pétales, comme le voile du front de la mariée, dans la nuit des fleurs d'oranger. Anna Méloi, Algérie.
Ghislaine, c'est une poésie aussi. J'écris lumière, j'écris tendresse et la douceur s'incarne, et le cœur surprenant des roses s'ébouriffe. J'écris soleil et l'amandier en fleurs devient la preuve du printemps. Messaour Balanaou, Algérie.
Alors c'est pour Philippe.
J'ai gravi le rayon du soleil jusqu'à atteindre les cieux. Je n'y ai pas trouvé ma place. Je suis redescendue sur la terre qui m'a engendrée. Et pour la lune, je me suis contentée d'un regard. Mohamed Mestaoui, Maroc.
Eddy. Dans le désert de Tunisie, on dirait que les vagues prient. Mohamed, 13 ans.
Marjorie.
Tourne ton visage vers le soleil, ainsi l'ombre restera-t-elle derrière moi. Derrière toi, pardon.
Joli lapsus.
Thibaut. Je professe la religion de l'amour. En quelque direction que prenne ma monture, l'amour est ma religion et ma foi. C'est de l'émir Abdelkader, Algérie.
Christian. Alors c'est un conte. Un jour, un ami de Dja, je le trouve installé en terrasse devant une montagne de nourriture. Il se goinfre, dévore tout en même temps, entrée, plat, dessert. Il mange si salement que la sauce coule le long des bras, imbibe ses manches, dégouline dans sa barbe. Dja, n'as-tu pas honte de manger ainsi en public ? Si, mais tout seul chez moi, j'aurais honte, alors pourquoi ne pas le faire en public ?
Jaha, c'est une figure mythique au Maghreb. C'est le sage-fou du Maghreb, Jaha. Et dans d'autres traditions, on le retrouve dans tous les pays du monde, et très souvent sous le nom de Nasreddin, en Iran, en Russie, en Turquie, voilà. Donc tous les contes qui sont là sont des contes de Jaha, sont des contes... Que les soufis utilisent comme des contes enseignement, mais en même temps, ce sont des contes pleins d'humour. Voilà.
Le reste, c'est un proverbe. Hein.
Si loin que nous portent nos pas, ils nous ramènent toujours à nous.
Amanda.
T'as quel âge, Amanda ?
10 ans.
10 ans.
Pour Amanda, c'est un proverbe. Dieu a créé des pays pleins d'eau pour que les hommes y vivent. Et des déserts pour qu'ils y découvrent leur âme.
C'est une poésie. Va, ma fille, Dieu fasse que ton soleil perce les nuages. Tao Armouche, Algérie.
Carole. C'est une poésie. Donnez mon pain aux pauvres gens, donner mes poèmes aux enfants, aux condamnés ma liberté, aux amis mes espérances, donner mes armes aux opprimés, donner ma pitié aux bourreaux, aux oiseaux mes rêves les plus fous, aux fleurs mes larmes pour roser, donner, donner, donner mon nom, donner mon sang, mon avenir, laissez-moi seulement boire à la source des étoiles. Ahmed Azega, Algérie.
Alors c'est Félix. Alors c'est une poésie. Je voudrais tant m'étendre sur un lit de sable, me laisser aimer par les odeurs d'iode et d'algues, et si une madone me brûle les yeux, me consume le cœur d'un regard, où les cils battent au ralenti, je sourirai. Permettez, vous êtes si belle. Soleiman Adel Gouema, Algérie.
Gaël. C'est une poésie. Cet homme vend du sable et des mots, à peine s'il se souvient de son nom. Son pays, ce sont ses mains, elles sont lourdes et parfumées de terre. Sa maison, ce sont ses savates, Elles sont épaisses et chaudes. Sa vie est une nuit qui a une histoire. Elle est dans un livre. Un livre immense qui dort dans le silence du cœur.
Il n'y a plus de nom ? Si on a quelques minutes, je prends quelques textes au hasard et je vous les dis. Il y a eu beaucoup de poésies qui sont sorties, peut-être je peux vous dire les contes qui sont là. Que la volonté de Dieu soit faite, disait un homme pieux à bout de champ. Elle l'est toujours, observe Jaha. Comment ça ? J'en sais quelque chose. Ma volonté à moi n'est jamais accomplie. Jaha sort de la mosquée. Un mendiant lui demande l'aumône. Es-tu dépensier ? Questionne Jaha. Oui. J'imagine que tu aimes rester tranquille, assis à ne rien faire. Oui. Qu'en plus tu aimes aller chaque jour au bain. Oui. Et que tu aimes t'amuser, boire et fumer avec tes amis. Oui, j'aime tout ça. Jaha sort sa bourse et lui donne une grosse pièce d'or. Quelques mètres plus loin, un second mendiant qui a vu la scène mais qui n'a rien entendu demande l'aumône à son tour. Jaha lui pose les mêmes questions. Et le mendiant répond « Oh non, je n'aime rien de tout ça !» Jaha sort sa bourse et lui donne une toute petite pièce d'argent. « Pourquoi ai-je droit à une si petite pièce ?» pleurniche le mendiant. Et Jaha lui répond « Parce que tu as de petits besoins. »
Jaha avait perdu son âne. Il allait par les rues en criant « J'offre mon âne à qui me le rendra, j'offre mon âne à qui me le rendra !» Un ami l'arrête et lui dit « À quoi te sert de retrouver ton âne si c'est pour l'offrir aussitôt ?» Et alors l'ami, que fais-tu de la joie des retrouvailles ?
Proverbe, éloignez vos tentes, rapprochez vos cœurs. Et le dernier, c'est un proverbe magnifique. Quand une femme change, le monde se transforme avec elle.
Cette balade sonore a été enregistrée et produite par Radio Girafe de l'association Gudule et Galipette pour La Gargouille. Cette création sonore est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de transformation. Avec Radio Girafe, on prend de la hauteur.